Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le témoignage d'un juif converti au catholicisme, du judaïsme à la chrétienté, Golan. Maintenant, Charles va nous parler de sa conversion, de sa vie de famille, de la figure de Marie, de la figure de Jésus, et on l'écoute maintenant.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Maria et de Catoglade. Je m'appelle Charles, je me prénommais Golan avant ma conversion, et je viens aujourd'hui vous parler de ma conversion au christianisme. Donc on doit reprendre depuis les origines. Je suis né juif et j'ai grandi au cours de mes premières années de vie en Israël. J'ai une éducation extrêmement religieuse. Donc j'ai toujours été près de Dieu, mais je ne connaissais pas Jésus, car dans la religion juive, Jésus est le Messie que l'on attend toute une vie et qui ne vient pas. Et il a fallu que je traverse, comme souvent dans la vie, de l'adversité pour rencontrer Jésus. Et donc ça se passe au cours de l'année 2008. Moi, c'était l'année où j'avais 34 ans et j'avais acheté une très grande maison dans le Val d'Oise. Et cette très grande maison nous a complètement ruinés et on nous a volé beaucoup d'argent et on s'est retrouvés plus ou moins à la rue début décembre, alors qu'on avait 5 enfants en bas âge, dont un dernier qui était un bébé. Et on devait emménager dans notre nouvelle maison, dans laquelle il n'y avait ni salle de bain, ni WC, ni cuisine. Et notre précédente maison, elle était à vendre aux enchères. Et donc, on devait absolument libérer les lieux. Et on était désespérés. Et à un point que mon épouse m'a dit, pour la veille de Noël, je me permettrais d'aller laver les enfants à la piscine municipale. Vous imaginez comme ça peut être quelque chose de douloureux pour un père de famille. Et donc le Seigneur déjà nous a envoyé à ce moment-là un monsieur qui s'appelle Sergueï, qu'on ne connaissait absolument pas, et qui est rentré dans nos vies et qui s'est engagé, alors qu'il lui restait 10 jours avant Noël, à faire en sorte qu'on puisse avoir une cuisine fonctionnelle, un WC, une salle de bain et une chambre pour nos 5 enfants. Et déjà c'était un miracle. Et le miracle s'est complété au cours de la veillée de Noël, que nous ne fêtions pas religieusement puisque nous n'étions pas chrétiens, mais nous faisions quand même, comme beaucoup de païens, un repas de Noël, comme beaucoup de Français et de gens à travers le monde. Et on n'avait pas d'argent pour acheter les cadeaux de Noël de nos enfants. Donc en fait, notre seul cadeau cette année-là, c'était de s'être offert un petit pain avec des pépites de raisin. Donc l'objet à 50 centimes, donc c'était notre cadeau, donc on a partagé ce morceau de pain et à la fin du repas, on avait réussi à louer un DVD de Narnia, 2 euros chez Vidéo Futur, une entreprise qui n'existe plus. Et donc voilà, notre veillée de Noël a été extrêmement simple. Et là, on s'est retrouvé, moi entouré de mes 5 enfants, devant ce film. Et j'ai été pris d'une émotion grande que je ressens encore aujourd'hui en vous parlant, en me disant que, bah voilà, que c'était dans la simplicité que le Seigneur nous touche. Et là, il y a eu un tournant, donc ce 24 décembre 2008, où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre dans la vie que d'avoir, et de cumuler des biens, et que finalement l'essentiel se trouvait dans les gens qui nous entourent, dans l'amour que nous portons les uns aux autres. Et c'était déjà une grosse prise de conscience. Mais comme j'étais empreint quand même d'une culture juive et très prégnante, il m'a fallu encore du temps, du cheminement personnel, accompagné. Tout d'abord, j'ai consulté les gens qui m'entouraient, c'est-à-dire les rabbins que je connaissais, ma famille, mes parents, etc. Et pour finir, à un moment donné, par me rendre compte que, en fait, toutes ces valeurs qui me touchaient tellement, c'était les valeurs que Jésus portait et qu'il voulait nous transmettre. Et donc ça, cette prise de conscience réelle, je crois que je l'ai eue à la fin de l'année 2010. Donc il s'est passé 2 ans. Ensuite, j'ai fait une psychothérapie parce que je me suis dit, en tant que médecin, que je devais devenir dingue. Et pour que le psychiatre me réponde que d'être attiré par Jésus le Christ n'était pas une pathologie psychiatrique, ça me fait encore sourire aujourd'hui. Et mes parents, qui sont des gens très ouverts, m'ont accompagné en me proposant de me renseigner, d'étudier à propos de la vie de Jésus. Et je me suis aussi retrouvé entouré par des amis catholiques qui sont des gens extraordinaires, qui sont des amis encore aujourd'hui que j'avais connus par l'intermédiaire d'un groupe de chant. Et je me suis dit, ben moi j'ai envie de ressembler à ces gens-là, j'ai envie de porter ces valeurs-là et j'ai envie de transmettre le message de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je ne savais pas vraiment par quel bout prendre le chemin. Et un jour, je vois arriver à ma consultation une dame qui s'appelle Sœur Patricia, qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo, et qui était une carmélite, qui était au Carmel de Dauxmont. Alors moi, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu une sœur à ma consultation et je n'en ai jamais revu depuis. Et donc j'ai considéré que c'était le Seigneur qui me l'avait envoyée et je lui ai dit, ah ma sœur, vous êtes devant moi, on va parler de choses sérieuses. Donc on a complètement laissé tomber son problème médical et je lui ai demandé de l'aide pour savoir ce que je devais faire pour enfin pouvoir être accueilli auprès des frères chrétiens. Et cette dame, elle a été un maillon absolument fondamental, parce qu'elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, docteur, je m'occupe de tout, je vais m'occuper de tout ça, et quelqu'un va vous rappeler du diocèse. C'était le diocèse de Pontoise. Et quelques semaines plus tard, on m'a téléphoné du service des catéchuménats, et on m'a dit, voilà, on va vous confier à monsieur un tel, qui se trouve être un homme qui était d'origine juive et qui était médecin comme moi, mais qui était surtout un docteur en théologie, un érudit qui parlait sept langues, dont le grec, l'hébreu, enfin voilà, quelqu'un d'extraordinaire. Et donc c'est là où, en septembre 2012, j'ai commencé mon catéchuménat et ça a été extrêmement riche. J'ai eu un catéchuménat sur mesure. On était deux catéchumènes avec ce monsieur. Et on a posé énormément de questions, on a lu beaucoup l'évangile, mais moi, comme je connaissais par mon éducation quand même bien l'Ancien Testament, puisque j'ai appris la Torah toute mon enfance, j'ai réussi à trouver la continuité qu'il y avait entre les Juifs et les chrétiens, puisque je ne comprenais pas en fait au début pourquoi Jésus était venu pour dire autre chose. Et en fait, finalement, je me suis bien rendu compte que Jésus ne disait pas autre chose, c'est qu'il avait accompli les termes du premier deal, hein, de la première alliance, et qu'il était venu nous expliquer que désormais, le cœur de notre vie, c'était de nous aimer les uns les autres. À travers plein de règles, puisque le judaïsme est truffé de 613 commandements, et que finalement, dans le christianisme, on en a éliminé beaucoup, pour se centrer sur les sept péchés capitaux, mais surtout un commandement principal, c'est de s'aimer et de se consacrer aux autres. Et donc là, donc mon parcours de catéchuménat, qui s'est achevé par mon baptême la nuit de Pâques de mes 40 ans en 2014, après une traversée donc du désert de 40 ans, tout un symbole. Et ce que je ressens clairement depuis 9 ans maintenant, c'est que Jésus a changé ma vie dans la perception que j'en ai. C'est-à-dire que, évidemment, on vit dans un monde terrestre avec des velléités, voilà, on a tous envie d'avoir des choses. Mais pour le coup, aujourd'hui, si j'ai pas quelque chose, c'est pas important parce que le cœur de ma vie, c'est de partager, d'écouter, de passer du temps avec des gens que j'aime et qui m'aiment. Et d'essayer de leur apporter la bonne écoute, la bonne parole, de les soutenir quand il y a une difficulté ou autre d'ailleurs, ou de rigoler avec eux quand tout va bien. Et c'est tellement important que ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que désormais, si je me heurte à une difficulté, je vais relativiser immédiatement. Je ressens pas de frustration ni de contrariété. Hypothèse, je décide de changer de travail pour travailler à tel endroit. Si on ne me prend pas, je considère que c'est une grâce et c'est une grâce et ça se passe toujours très bien. Si je décide d'acheter un bien mobilier, n'importe quel objet matériel et que finalement ça doit se faire, ça se fait, ça peut être une petite chose. J'achète beaucoup de choses sur le bon coin. Alors j'envoie parfois des messages en disant, voilà, je voudrais bien acheter votre chaise, votre table ou ou n'importe quoi. Et puis je me dis, bon, bah, si ça doit se faire, ça se fera. Et si ça ne se fait pas, c'est pas grave. Parce que tout ça, c'est somme toute que du matériel. Et ça n'a. J'ai relayé ça complètement à un degré lointain, ce qui n'était pas du tout dans mes valeurs originelles, puisque moi, j'étais plutôt dans le constituer un patrimoine, avoir beaucoup et cumuler. Accumuler et cumuler. Et donc, vraiment, aujourd'hui, je suis convaincu par le message de Jésus qui est là pour nous dire que l'essentiel de nos vies est dans ce que nous partageons les uns avec les autres. Et voilà, c'est le cœur de mon histoire, c'est ce que je transmets à mes enfants, c'est ce que je partage avec eux ou avec mes amis. Et voilà, c'est vraiment il y avait quelqu'un avant et il y a une autre personne aujourd'hui qui vous parle. Et beaucoup de sérénité avec, sur le chemin de Jésus, puisque on lui confie nos soucis. Alors, j'ai eu la chance d'échanger avec un auteur qui s'appelle Jean-Marie Elie Sedbon, qui est un ancien rabbin qui est devenu chrétien et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle De la kippa à la croix. Donc ce livre, je l'ai lu et j'ai eu la possibilité d'échanger avec ce monsieur qui m'a beaucoup aidé parce que je ne comprenais pas de quelle manière on devait prier Jésus, puisque moi j'ai toujours prié Dieu, Dieu le Père, Dieu créateur, mais comment on confie sa vie à Jésus-Christ? Et lui, il m'a dit, Jésus-Christ, il porte ta croix. Donc tu lui confies tous tes soucis, toutes tes galères, et il est là pour ça, il portera tes emmerdes. Et alors, c'est d'une certaine manière, ça me paraît parfois un petit peu ingrat, parce que c'est vrai que quand je rends grâce pour quelque chose de très positif dans ma vie, je rends grâce à Dieu, et quand je confie mes soucis, je les confie à Jésus pour qu'il les porte sur sa croix. Après, bon, comme vous le savez, on a la chance d'avoir un Dieu qui a plusieurs facettes, qui est trinitaire, et donc voilà, on s'adresse à la même personne finalement. Mais Jésus, pour moi, il a pris la forme de celui qui est là pour m'épauler, c'est une sorte de tuteur, on s'appuie dessus. Et avec son aide, on réussit à tenir debout, à avancer et à faire face à cette vie qui n'est pas toujours facile, quel que soit le milieu dans lequel on évolue, quel que soit la famille que l'on a, et on a tous des moments difficiles à franchir, que l'on ne confie pas forcément à tout le monde. Et c'est vrai que moi, étant médecin, avait plutôt tendance à penser que j'avais pas de soucis. Et comme vous pouvez l'entendre, ben, comme tout le monde, j'ai aussi eu ma dose de soucis.
Qu'est-ce que selon vous la providence et la miséricorde, le sacrement du pardon?
Alors, alors je vais commencer par la miséricorde, puisque c'est plus facile pour moi. Ouais, le sacrement de réconciliation, du pardon, c'est vraiment un concept absolument incroyable qui est développé dans le catholicisme, que je ne connaissais absolument pas. Et un jour, on a utilisé une métaphore que je vais utiliser aujourd'hui, parce que c'est comme ça que je le ressens, c'est comme si tu prenais une douche. C'est-à-dire qu'on est tous, on a plein de péchés et on est bien sali par tout ça. Et quand on se confesse et quand le Seigneur, par l'intermédiaire du prêtre, nous pardonne, on a vraiment un sentiment de purification, de nettoyage. Et c'est une dimension dans le judaïsme qui n'existe absolument pas, puisque en fait, dans le judaïsme, on doit attendre le jour dernier, donc au moment de sa mort, où en fait, on rend des comptes sur le bien et le mal qu'on a fait. Et dans le catholicisme, on a quand même le sentiment d'avoir une ardoise qui s'efface à chaque fois que l'on se confesse, et c'est vrai que ça fait énormément de bien, et on se sent plus léger, et on se sent à nouveau aimé à ce moment-là. Et la providence, alors, c'est sans doute différent. Dans le judaïsme, on parlerait presque du destin, c'est-à-dire comme si on avait un chemin qui était tracé devant nous, et qu'on devait suivre ce chemin qui est pré-tracé. C'est-à-dire qu'il est le sillon est déjà sur le chemin et on suit ce sillon. Et donc, comment moi je vis la providence, ça va être des rencontres humaines ou des concours de circonstances, des événements. Comme j'ai l'habitude de dire, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et en fait, si une porte se ferme, c'est une manière qu'a le Seigneur de nous montrer le chemin. C'est-à-dire que s'il y a une voie sans issue par là, eh ben, c'est que le chemin, il n'est pas là, il est ailleurs. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois au cours de ma vie et c'est comme ça que je le ressens.
Qu'est-ce que cette conversion a changé dans la vie de famille?
Alors, de manière globale, ce qui est très particulier au christianisme, c'est de prier pour les autres. C'est-à-dire que, peut-être que c'était moi qui étais un mauvais juif, mais chez les juifs, on prie plutôt pour soi-même. Globalement, pour soi-même, pour sa famille, pour les gens qui nous entourent au premier degré ou que l'on porte vraiment dans notre cœur. Dans le christianisme, on prie pour ces gens-là. Mais on peut aussi prier pour des gens plus loin, pour telle misère dans le monde, ou pour même des ennemis, des gens qui nous ont fait du mal. Donc déjà, moi, ça m'est arrivé de prier souvent pour les gens qui m'avaient fait du mal. Et ça fait un bien fou. C'est très étonnant comme sentiment. Mais plutôt que d'être enfermé dans la rancune, voilà, je ressens ça. Donc ça, c'est sur la dimension de la prière. Après, dans la vie de famille, je dirais qu'il y a... Qu'est-ce que ça a changé dans notre couple? J'ai l'impression qu'on a toujours été un couple uni. Peut-être que il y a une chose qui est... Parce qu'on s'est mariés 3 fois, en fait, Séverine et moi. Une fois à la synagogue, une fois à la mairie et une fois à l'église. Et donc, il y a eu 5 ans d'écart entre chaque mariage. Donc, le mariage à l'église est intervenu 10 ans après le mariage à la mairie. Et on a partagé ça un jour, on s'est dit que depuis qu'on est marié à l'église, il n'y a plus aucun doute pour nous dans ce mariage. C'est-à-dire que si tant est qu'avant on ait pu se dire s'il y a telle ou telle difficulté, peut-être qu'un jour on pourra divorcer. Et là, ce que l'on ressent intimement, profondément, c'est que le mariage, il est immuable, qu'il est indéfectible, indissociable et qu'il est solide. C'est quelque chose que nous percevons tous les deux. Après, on a toujours été un couple qui était relativement harmonieux, on va dire. Donc, c'était pas pire, pas moins bien. Peut-être qu'on essaye de s'écouter plus. Et quant à nos enfants, on essaye de leur transmettre la foi chrétienne. On en a 6, mais ils sont pas tous dans la même dynamique, on va dire. Donc, il y en a qui sont plus croyants, il y en a qui sont plus sceptiques. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on essaye de faire face à toutes les difficultés éducatives par l'intermédiaire de l'amour et pas forcément de la punition. C'est-à-dire que, alors, sans doute que c'est le message de Jésus, et pour le coup, c'est ce que j'ai toujours dit, ma mère était sans doute aussi chrétienne sans le savoir, parce que ma mère m'avait guidé sur ce chemin, que c'est beaucoup plus facile d'éduquer les enfants quand on leur fait témoignage de notre amour. Et c'est ce qu'on fait quand même assez souvent, et du coup, on arrive quand même à avancer avec eux, même quand il y a des résistances. J'ai l'impression que, pour répondre à votre question, qu'il y a énormément d'amour chez nous depuis que Jésus est là. Alors, ce que je ne saurais pas dire, c'est que si Jésus n'avait pas été là, comment aurait évolué la famille? Mais en tout cas, c'est vrai que notre foyer, voilà, il y a pas de dispute entre nos enfants. Il n'y a pas vraiment de dispute entre les parents. C'est assez... C'est une sorte de cohabitation pacifique.
Est-ce qu'il y a une parole qui a marqué votre chemin spirituel?
La parole qui sort tout le temps, que je cite plusieurs fois par semaine et que mes enfants citent derrière moi, c'est Tout est grâce. Ça, c'est tellement vrai et c'est tellement du vécu et on vit parfois des échecs, enfin ce que l'on peut assimilé à un refus, un échec, une contrariété. Au premier degré, ça paraît une déception. Et en fait, quand on se dit que tout est grâce et que le Seigneur ne fait jamais rien pour rien, d'abord, on fait face à cette note négative avec beaucoup de positivité. Et finalement, on rebondit très vite. Et c'est vraiment une parole qui nous guide. Et je l'ai tellement dit que quand mes enfants m'imitent, ils disent tout est grâce.
Avez-vous vu le film de Gad Elmaleh Reste un peu? Comment voir la Vierge Marie?
Alors oui, j'ai vu le film de Gad Elmaleh. Alors il m'a beaucoup touché parce qu'on a plus ou moins la même structure familiale, c'est-à-dire que mes parents étaient marocains, qu'ils avaient un peu le même genre de valeurs. Ça m'a beaucoup beaucoup fait rire et puis pleurer aussi parce que j'avais beaucoup d'émotions. Alors moi, la Vierge Marie, elle était très loin de moi au départ. Ça a été une autre conversion que la conversion à la Vierge Marie, contrairement à Gad. Moi, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Et Marie, je n'arrivais pas à concevoir sa sainteté, enfin, je ne ressentais rien. Et il y a eu d'abord un pèlerinage des pères de famille à Cotignac, où j'ai râlé pendant 3 jours, et les frères qui étaient là avec moi, ils ont dû me porter pratiquement, pas physiquement, mais psychologiquement, pour que j'arrive en haut. Et franchement, j'ai marché toute la route en me disant plus jamais je reviens. Et quand je suis arrivé en haut, on rentre donc dans l'église Notre-Dame-de-Grâce, et on s'agenouille en chantant un Je vous salue Marie. Et alors là, j'ai levé les yeux, et il y avait Notre-Dame-de-Grâce, donc une icône, quoi, une statue. Donc c'était pas la Vierge Marie, puisque c'était une statue. Et alors j'ai été pris d'une émotion absolument indescriptible. Je me suis mis à sangloter de manière caricaturale. J'avais l'impression d'avoir des larmes qui sortaient de mes yeux. Et quand je regardais la statue qui représentait Marie, la statue pleurait aussi. Et là, je me suis dit qu'il y avait un truc qui se passait, qu'on vivait les choses. Donc ça a été pour moi le miracle. Et donc là, il naît un doute. Donc là, on était en juillet 2014. Donc moi, j'étais baptisé depuis 3 mois, mais je croyais bien en Jésus. Mais Marie, là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quand même quelque chose avec cette femme incroyable. Et ça s'est confirmé. Et là, à partir de l'événement que je vais vous raconter, elle est vraiment rentrée dans ma vie. Et c'est que donc le 13 mai 2015, c'était donc l'anniversaire de l'apparition de Marie à Fatima. Et en fait, d'ailleurs, pendant que je vous parle, je suis en train de réaliser une chose. Donc, j'ai un de mes fils qui avait 2 ans, et on avait une statue dans le jardin, qui était la statue d'une femme qui n'était pas Marie, mais qui, d'une certaine manière, ressemblait beaucoup à une potentielle icône de Marie. C'était une femme, ça aurait pu être la Vierge, mais c'était pas ça. Et la statue est tombée sur mon fils de 2 ans, une statue qui devait faire au moins 200 kilos. Donc Victor a été blessé, une fracture du bras. Et c'était la veille de la profession de foi de mon fils Clément et de la première communion de mes fils Gabriel et Mathias. Donc tout ça sur le même week-end. Et l'anniversaire de l'apparition de Marie à Fatima. Et là, je me suis dit, j'ai réalisé après l'événement, une fois que tout était passé, qu'en fait, c'était extrêmement grave ce qui s'était passé, et que l'enfant aurait tout à fait pu mourir écrasé par la statue de 200 kilos. Et que pour moi, alors, il y avait eu un événement ce jour-là, c'est que nous avions une femme de ménage brésilienne qui était protestante et qui ne croyait pas en Marie. Et donc, c'était un vendredi, donc elle quittait la maison à 17 h, et moi, je lui ai dit, demain, si vous voulez venir à l'église, il y a la profession de foi de Clément et la communion de Gabriel et Mathias, vous pouvez venir, en plus, il y a une communauté portugaise, comme elle était portugophone. Et cette femme qui s'est mise à crier dans mon entrée en disant, mais moi, je ne crois pas en Marie, il me semble, si je ne veux pas transformer ses propos, mais qu'elle ait insulté Marie. Et qu'elle a dit quelque chose du style, de toute façon, cette nana, elle a traité de tous les noms, je ne dirais pas, mais bon, voilà, vous pouvez bien imaginer. Et moi, j'étais désemparé, puisque j'étais pris à ce moment-là, donc c'était avant que la statue tombe sur Victor. Et moi, pris de doute, puisque je n'avais pas encore la foi de Marie. Et donc, je n'ai pas pris le pied de lui dire, je ne vous permets pas de parler comme ça de la Sainte Vierge Marie, etc. Et j'ai un peu baissé la tête et je l'ai laissé tenir des propos obscènes. Et donc elle est partie. Et donc 1 heure après la statue, donc 1 heure après cet événement, la statue tombe sur Victor, qui se fracture le bras, qui va très bien aujourd'hui, il a 8 ans, donc il n'est pas mort. Entre 17 h et 18 h, ce même jour, mes deux garçons qui faisaient leur première communion avaient un rendez-vous avec le prêtre qui les préparait à la première communion, donc une séance de préparation à la première communion. Donc je suis allé avec eux, c'était à l'église de Bougival. Et à la fin de notre échange, donc il était 18 h, Donc je dis au prêtre, vous savez ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai ma femme de ménage brésilienne, protestante, qui a tenu tel et tel propos, etc. Le père me dit, vous auriez dû la reprendre, vous auriez dû faire ci, faire ça, etc. Et puis du coup, on s'est quitté avec, donc il y avait le père Bonnet, mes deux garçons, moi, et donc on a chanté trois fois « Je vous salue Marie » pour rendre grâce, et puis d'une certaine manière pour... Comme si c'était pour s'excuser de ne pas avoir été à la hauteur de défendre la réputation de la Vierge. On monte dans la voiture, donc 18h05, ça faisait 5 minutes, et ma femme m'appelle et elle me dit, il faut que tu viennes vite, la statue est tombée sur Victor, etc. Donc c'était le moment où nous avons prié la Vierge était quasiment simultanément le moment où cette fameuse statue est tombée sur Victor. Et là, avec le recul, le lendemain, quand j'ai mis bout à bout la succession d'événements entre l'insulte à la Vierge, le « Je vous salue Marie » trois fois, l'apparition de Marie à Fatima, enfin bon, tout ça qui était finalement en même temps. Et là, je me suis dit, mais en fait, Marie, elle est extraordinaire, elle a sauvé mon Victor, c'est notre mère à tous. Et voilà, et là, ça a été pour moi, Marie est arrivée dans ma vie, mais finalement avec... 7 ans après que Jésus soit arrivé. Donc contrairement au film de Gad Elmaleh, qui lui est arrivé par l'intermédiaire de Marie, moi je suis arrivé par l'intermédiaire de Jésus. Mais d'un autre côté, ma maman s'appelait Marie, et comme une bonne juive, je vais finir sur cette petite blague, elle disait, mais si toi tu... si moi je suis Marie, peut-être toi tu es Jésus. Vous voyez, chez les juifs, on voit toujours qu'on est au top. Donc voilà, donc pour ma maman, je pouvais devenir chrétien, mais il fallait que je sois le top des chrétiens. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté et bon visionnage et bonne fin de carême et une très belle fête de Pâques à tous.